おかしいおかしい、
bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, ouverture mardi dernier à Kinshasa de la session ordinaire du Parlement consacrée à l'examen du projet de budget 2010. La ministre en charge du genre, famille et enfants dénonce la marginalisation des femmes dans la vie politique en République démocratique du Congo. Et enfin, province de l'Équateur, première plénière jeudi 17 septembre dernier à l'Assemblée provinciale après plusieurs mois de crise. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Luc Mikomo Kabongat, il est journaliste à Congo Web Télévision et éditeur du journal Le Nouveau Regard, un journal paraissant à Kinshasa. Germain Kadima, journaliste au quotidien Le Phare, c'est un journal paraissant à Kinshasa aussi. Et Katongi Mubengwa, qui est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise de Goma, au Nord Kivu. Il est aussi chef de l'antenne Observatoire des médias congolais. La rentrée parlementaire, la marginalisation des femmes dans la vie politique, ainsi que la première plénière à l'Assemblée provinciale de l'Équateur après plusieurs mois de crise, constituent les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Comment les différents journaux de Kinshasa ont traité ces sujets? Les détails dans cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. Parmi les sujets retenus pour cette tribune de presse, figure l'ouverture de la session budgétaire cette semaine au Parlement à Kinshasa. Le journal Ouro parle d'une rentrée parlementaire sur fond de crise multiforme avec une attention particulière accordée au social. Ce même journal rapporte les propos du président de l'Assemblée nationale, Évariste Boshab, qui a invité les députés à s'imposer des sacrifices pour que la population puisse jouir réellement de ses droits et libertés fondamentales à travers les différentes réformes consistant à placer le citoyen au centre de tous les objectifs du développement. Assemblée nationale, non à la distraction, s'exclame Le Phare qui demande aux députés de ne pas perdre du temps au cours de cette session budgétaire. Il se prépare à attaquer directement le projet de budget 2010 dès qu'il sera déposé par le gouvernement. Toujours à propos de la rentrée parlementaire, la prospérité annonce que dans leur discours d'ouverture, Kembo et Boshab ont dressé un tableau sombre de la situation socio-économique des Congolais qui s'est davantage détériorée, et ceci à cause de la crise financière internationale et des facteurs internes liés notamment à la gestion de la chose publique. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la situation au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le Phare, dans sa livraison de ce matin, annonce que la confusion persiste à l'Assemblée provinciale de Mbandaka. Le journal fait référence à la plénière manquée du mercredi dernier à cette instance législative. C'est que qualifie la tempête des tropiques de blocage.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse. Monsieur Luc Mikomo Kabongat, vous êtes journaliste à Congo Web Télévision et éditeur du journal Le Nouveau Regard. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment appréciez-vous le traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Oui, la presse n'a fait que se greffer sur les faits qu'elle a vécu. Elle l'a rendu, on voit bien, chaque confrère parlant des journaux est parti un peu de son côté pour cibler un aspect. Mais ce qui reste vrai, chaque fois qu'il y a rentrée parlementaire dans notre pays, il y a toujours à l'ordre du jour des sujets sensationnels. C'est ce que nous avons d'ailleurs écrit dans notre éditorial. Vous rappelez, à l'époque, c'était l'histoire Caméré, l'histoire Mbama, et puis les 13 parlementaires présumés corrompus, ainsi de suite. Et chaque fois qu'il y a la rentrée parlementaire, on dirait que les élus du peuple mettent de côté l'essentiel pour s'accrocher à l'accessoire, parce que nous savons comment ça se passe là-bas. Quand on monte des enchères, c'est donc les sous qu'on cherche pour monnayer telle décision ou telle autre. C'est pourquoi un confrère dit pas de distraction. Donc il faut qu'ils aillent à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le budget 2010. Et nous savons que l'année 2010 est une année capitale pour notre pays. C'est l'année du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Donc, le pays arrive à l'âge de la maturité et il ne faut plus qu'on continue à se comporter, comme disait le professeur Bongeli, comme si nous étions dans un état bébé, quoi.
Oui, on n'est pas encore rentré dans le détail.
Très bien.
C'est juste un petit commentaire. Hein. Jean-Marc Kadima, vous êtes journaliste au quotidien Le Phare, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et quelle est, selon vous, l'information que vous jugez importante, mais qui n'a pas été mentionnée dans la presse de cette semaine?
Non, il faut d'abord dire qu'avec la rentrée parlementaire, consacrée essentiellement à l'examen du projet du budget 2010, on note que cette rentrée intervient arrive sur fond de remous sociaux. Vous vous souvenez qu'il y a deux ou trois semaines, les médecins ont déclenché un mouvement de grève. Il y a les enseignants qui étaient aussi à l'affût, mais qui, à un moment donné, ont réussi à se mettre d'accord avec le ministre, avec le gouvernement. Mais il y a aussi, vous savez, les magistrats qui réclament aussi, n'est-ce pas, la satisfaction d'un certain nombre de... Comment dire?
De besoins.
De besoins. C'est-à-dire, par exemple, les arriérés de rémunération. Tout ça n'est pas au rendez-vous. Alors, on espère que, avec la rentrée parlementaire, et donc les élus du peuple vont se mettre au travail, effectivement, pour pouvoir répondre à ces besoins sociaux.
Katongi Mubengwa, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise à Goma, au Nord Kivu, et chef de l'antenne de l'Observatoire des médias congolais. Et comment votre rédaction, la RTC Goma, a analysé la rentrée parlementaire?
En fait, cette rentrée au niveau local a été très bien appréciée par rapport toujours au discours de président de chambre, surtout que lorsque le président de l'Assemblée nationale a parlé de mettre les citoyens congolais au centre du tout. Mais ce que nous avons constaté, c'est que depuis longtemps, c'est vrai que les rentrées parlementaires ont connu beaucoup de discours, beaucoup de bons discours comme ça, mais malheureusement, dans l'exécution, on sent vraiment que les députés au niveau national aussi ne font pas vraiment le travail comme il le faut. C'est vrai, on peut vous dire que maintenant il faut mettre la population au centre, ou bien les citoyens au centre de tout, mais lorsqu'il faut mettre en application maintenant le budget par exemple, ce n'est pas le cas sur le terrain. Et c'est pour cela que vous trouvez chaque fois qu'il y a des remous dans différentes couches sociales de la population. Alors, ce qui est important pour nous, nous nous sommes dit que, en fait, peut-être, il faut aussi, comme on est en train de prendre les élections pour 2011 et que 2013 est tellement décisive, alors on s'est dit que peut-être, avec cette rentrée parlementaire, les choses vont changer.
Ok, merci. Nous allons passer à notre premier thème de la tribune de ce soir. Ouverture mardi dernier à Kinshasa de la session ordinaire du Parlement consacrée à l'examen du projet de budget 2010. Cette session, qui est essentiellement budgétaire, prévoit aussi l'examen d'autres matières indispensables dans la réforme de l'État. Dans leur discours, le président des deux chambres ont reconnu que la situation socio-économique des populations n'a pas changé pour le président du Sénat. Elle s'est même détériorée. Ils envisagent de s'investir davantage pour une amélioration à travers l'adoption d'un projet de budget réaliste pour l'année 2010. Reportage de Marie-Chantal Lumba.
Le président du Sénat, dans son discours, a fait une autopsie du budget 2009. Par exemple, le taux d'inflation prévu à 11,5% atteindra 31,2% en décembre 2009. À ce jour, l'État n'a pas encore pu réaliser la moitié des prévisions des recettes. Pourtant, les dépenses dépassent les recettes. Un tableau sombre qui n'est pas seulement lié à la crise financière mondiale, mais aussi à d'autres facteurs internes. D'après Léon Kengoa Dondo et Evariste Boshab, cette situation a eu des conséquences directes sur la population. Les deux présidents estiment que le Parlement a usé de tous les moyens constitutionnels de contrôle à leur disposition, assorti des recommandations et résolutions à l'organe exécutif. Mais à ce jour, le taux d'application est très faible. L'institution prévoit une évaluation de ces recommandations. Autre point fort dans les discours, la lutte contre les antivaleurs, en soulignant que la politique tolérance zéro du chef de l'État ne soit pas un slogan, mais doit être une réalité. Par ailleurs, le Parlement rassure mettre à la disposition du gouvernement au cours de cette session les lois nécessaires pour l'organisation des élections prévues en 2010 et en 2011.
Jean-Marc Kadima, votre réaction par rapport à ces sombres tableaux peints par les deux présidents du Parlement?
Ma réaction est que le gouvernement apparemment, le gouvernement n'a pas à cœur les besoins sociaux de la population.
Et qu'est-ce que vous faites de cela ?
Mais le fait que le budget ne soit pas appliqué comme prévu, vous savez, depuis 2007, 2008, 2009, les budgets n'ont pas été exécutés comme prévu. Pourquoi ? On ne sait pas, mais ça c'est au Premier ministre de pouvoir expliquer, éclairer la lanterne des élus du peuple. Et je me dis, à la lueur où vont les choses, et vous savez d'abord que cette session est la dernière, la session budgétaire, hein, pour la mandature en cours. Je me demande à cette allure, c'est que va présenter la coalition au pouvoir, mais pas au moment du bilan. D'ici la 2011.
Oui, quand on dit mon Benoît, cette session est consacrée au budget 2010 et il est de notoriété publique que le budget 2009 avait été jugé d'irréaliste par l'opposition. Et au début de cette semaine, le ministre du budget, Michel Lokola, a présenté la mouture du projet de budget 2010 adopté au Conseil des ministres. Le ministre a évoqué le chiffre de 4,19 milliards de dollars. Et on constate que ce budget n'est pas différent de celui de cette année. Et comment appréciez-vous cette mouture dont les recettes courantes sont de l'ordre de 2,2 milliards et les recettes extérieures de 2,6 milliards de dollars?
En fait, ma appréciation jusqu'à un certain niveau, au niveau local, même si vous écoutez la population locale de Goma, rien n'a changé jusque-là. Et ça ne me donne pas que de... C'est vrai que, comme on l'a dit, le
Moubingwa, il n'y a pas moyen de bouger. Essayez de bouger.
Oui, je disais que localement, si vous écoutez la population, elle montre que rien n'a changé. Jusque-là, le budget est non seulement irréaliste, même si le président de l'Assemblée nationale a semblé dire qu'il faut mettre l'homme au centre de tout, mais vous sentez aussi qu'un croissement dans l'exécution du budget, même par rapport à la Constitution, vous sentez que les gouvernements provinciaux ne bénéficient pas des rétrocessions comme c'est prévu. En fait, c'est prévu qu'on revienne à la source, les 40%. Mais malheureusement, c'est pas fait. Vous voyez les autorités provinciales faire des mouvements qui cherchent à pour récupérer l'argent. Alors, ce qui fait que le fait que le budget n'est pas réaliste et que la constitution à certains niveaux n'est pas respectée par rapport à la rétrocession, c'est vrai qu'il y a peu d'espoir au sein même de la population.
Oui, Lucky, comment le budget n'est pas réaliste? Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Ben, je pense que ce point de vue est à partager parce que tout simplement on a vu pendant l'exercice 2009 que la plupart ou le plus important des besoins sociaux, hein, comme on dit maintenant dans le gouvernement des besoins sociaux de base, n'ont pas trouvé des réponses. Jusqu'à présent, la population attend encore de voir ce que le gouvernement peut faire pour améliorer le vécu quotidien du Congolais. Alors, au-delà de tout ce que viennent de dire mes estimés confrères, moi j'ai comme l'impression que le véritable problème qui se pose dans notre système politique, et d'ailleurs dans le système politique de la plupart des pays en voie de développement, c'est le déficit de ce que j'appelle l'hygiène politique. Il n'y a pas d'hygiène politique, voyez-vous. Lorsque l'homme ne prend pas soin d'apporter une hygiène corporelle, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe malade. Et lorsqu'il n'y a pas d'hygiène politique, le pays s'écroule. Et on a des beaux discours, on les entend, il y a des belles idées, mais ces idées-là n'ont pas d'impact immédiat dans les équipes quotidiennes. C'est-à-dire qu'il y a un déficit, me semble-t-il, entre la pensée et l'action. Donc, entre les deux, il y a un hiatus, il y a un monde, il y a un fossé, comme disait La Fontaine. Donc, il faudrait que, en l'an 2010, encore que ces budgets-là ne représentent pas la taille de notre pays et ses besoins, ça c'est connu.
Il faut préciser que ce que le ministre Lokola a présenté lundi dernier n'est qu'une mouture, hein, en attendant d'être consolidé par les budgets provinciaux.
Vous croyez vraiment que ce budget-là pourra bondir de 4 milliards, mettons, à 12 milliards, à 15 milliards, à 20 milliards? Je n'y crois pas.
Tout est possible.
Je suis un peu sceptique.
Jamais pas dit.
Bon, vous savez, le budget, c'est toute une loi à part entière. Or, lorsque on ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réprimer, il faut sanctionner le non-respect d'une loi. Malheureusement, il se passe dans notre pays des pratiques assez bizarres. Vous verrez que ce budget, on le traite aujourd'hui d'irréaliste. Les parlementaires, les mêmes parlementaires, vont le voter. Mais ils vont le voter pour quel effet?
Il faut préciser qu'à l'Assemblée nationale, la majorité, c'est l'AMP. Et le budget est élaboré par un gouvernement de la majorité.
Oui.
Et donc, les députés, la majorité qui est à l'Assemblée nationale, ne peut que voter pour ce budget qui est l'émanation même de la volonté du gouvernement.
L'émanation de la volonté du gouvernement, mais alors, là, ça veut dire qu'on joue à contre-courant des aspirations de la population. Comment voulez-vous que la majorité qui vous a élu attende? Bon, on ne voit rien qui tombe dans les ménages, dans les paniers de la ménagère. Et vous dites, bon, c'est la majorité. Mais moi, je pense qu'il faut tirer les conséquences. Lorsque une loi n'est pas respectée, il faut rappeler les gens l'ordre.
Oui, Katondi Mubengwa, les deux présidents du Parlement ont parlé aussi des recommandations, des résolutions qui ont été formulées à l'endroit du gouvernement et qui n'ont jamais été appliquées. Et ils pensaient de promettre d'en faire une évaluation. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une large marge de manœuvre pour faire appliquer ces recommandations et résolutions?
C'est ça le mal même qui règne au sein du pouvoir. Au niveau de la chambre basse et haute du Parlement. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont formulées et apparemment, c'est comme si les deux chambres se font le plaisir de continuer de formuler des recommandations au Parlement, mais sans malheureusement c'est suivi, ils se font seulement l'élite de formuler des recommandations, malheureusement, il n'est pas suivi. C'est ça le problème. Et on pense qu'à un certain niveau, ces deux chambres sont fragilisées par majorité de les prendre en otage du fait que la majorité est au gouvernement et à l'Assemblée et au Sénat, et les deux chambres deviennent de plus en plus fragiles, si bien qu'il y a une coopération. C'est vrai qu'on s'est dit, nous allons former des recommandations, bien nous avons formé des recommandations. C'est vrai qu'on dit qu'il faut faire l'évaluation, mais vous sentez que à un certain moment, cette soi-disant évaluation semble être stratégique ou elle ne se fait même pas. Et si même se faisait, non seulement les fantaisistes, mais aussi il n'y aura pas de sanction qui va suivre, et cela fragilise à un certain niveau les deux chambres. Et la population qui s'est dit être représentée, parce que moi je me dis que tous ces députés, c'est une réalité, ont été élus, malheureusement cette population à un certain niveau ne se retrouve pas dans cette même gestion de ce pays.
Oui, Luc Moukomo, apparemment vous avez quelque chose à dire.
Oui, j'avais juste un mot à placer par rapport au discours de président de chambre du Parlement. Et si vous avez été attentif, le président du Sénat a dit qu'aujourd'hui la situation sociale se dégrade davantage. Il faut le lire entre les lignes. Il me semble, je ne m'interdis pas d'interpréter la pensée du président du Sénat, qui est un politicien de longue date, donc il emploie des mots qu'il mesure et dont il connaît vraiment la substance. Alors, quand Kengo Wadondo dit que, attendez, aujourd'hui la situation s'est dégringolée, s'est dégradée, il me semble qu'il est en train de faire rappeler à la mémoire collective les phrases que le président de la République avait prononcées lorsque il venait au pouvoir, rappelez-vous, tout récemment, après les élections, quoi. Le président avait dit ceci, qu'aujourd'hui, la réalité rattrape le rêve, et que, a-t-il dit, aujourd'hui, les Congolais vivent mieux qu'il y a un an, je crois, hein, quelque chose comme ça, beaucoup mieux qu'il y en a 15. Alors, quand le président du Sénat dit qu'aujourd'hui, la situation s'est dégradée, il bat en brèche les affirmations du chef de l'État. Et ça, c'est pas gratuit, hein, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans le discours du président du Sénat, c'est son droit d'ailleurs, hein, il est au Parlement pour ça aussi, mais c'est un discours qui véhicule plus qu'il ne le dit entre les lettres.
Et à votre avis, Luc Moukomo, qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait faire appliquer les recommandations des résolutions qui sont souvent formulées par les deux chambres du Parlement à l'endroit du gouvernement?
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il se pose un problème d'hygiène politique dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent en politique et qui ne savent pas pourquoi ils viennent en politique. Allez, par exemple, dans une chambre basse, l'Assemblée nationale, c'est défendre avant tout les intérêts de la population qui vous ont élu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les députés viennent pour défendre les intérêts de la population? Les recommandations, il y en a eu combien? depuis cette législature. Vous savez, je ne peux pas me le cacher, et tout le monde le sait, que depuis que l'actuelle Chambre basse et même le Sénat sont là, on a déjà énervé plusieurs fois les dispositions de la Constitution. Ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi. Lorsqu'on on commence à ne pas respecter la Constitution, comment voulez-vous que l'on aille respecter ce qui n'a pas un caractère tout à fait contraignant?
Tout se résume en un seul mot, la volonté politique. Si on veut changer les choses, il faut en avoir la volonté. Or, nous avons déjà entendu le discours de nombre de ministres ici, en train de dire les recommandations émanant du Parlement, des deux chambres du Parlement, sont à prendre ou à laisser par le gouvernement, et n'ont pas un caractère contraignant. C'est ce que les membres du gouvernement disent.
Oui,
Katongi, il manque dans leur chef cette volonté-là de pouvoir changer les choses.
Oui, Katongi Mubengwa, il faut une volonté politique. Vous pensez que la volonté politique n'existe pas?
En tout cas, la volonté politique, comme l'on dit, mais de construire à un certain niveau, n'a jamais existé en pratique. Je dis en pratique, mais théoriquement, c'est vrai que les hommes politiques, ils descendent sur le terrain, ils vous disent, écoutez, nous allons faire ceci, ceci et cela, mais en réalité ou en pratique, rien ne fait. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de volonté politique et que je pense qu'à un certain niveau, il ne faut pas qu'on fasse avec les amis, ou c'est vrai qu'il y a des amis qui se trouvent au gouvernement, d'autres se trouvent au Sénat et les autres à l'Assemblée nationale, pour se retrouver, c'est pas les soirs autour d'un verre, on discute et puis le matin, vous distrayez la. Je pense, comme l'ont dit les confrères, il faut qu'il y ait des lois au Congo démocratique et de caractère contraignant pour ramener les gestionnaires ou les dirigeants à comprendre qu'à un certain niveau, ils doivent se soumettre à la loi, et si seulement ils ne se soumettent pas, il n'y a pas de touchable, il y aura, en fait, la loi va s'imposer.
Merci, c'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La ministre en charge du genre, famille et enfants dénonce la marginalisation des femmes dans la vie politique en République démocratique du Congo. La prise en compte du genre au niveau des staffs dirigeants des partis politiques et des listes électorales, c'est le message lancé mercredi dernier à Kinshasa par Marie-Ange Loutiana, ministre du genre, de la famille et de l'enfant. C'était à l'hôtel Fadenhaus au cours d'un dîner d'échange organisé à l'intention de plusieurs responsable des partis politiques. Pour la ministre, l'État congolais doit accorder aux femmes une place dans la gestion du pays à tous les niveaux. Marie-Ange Loutiana a indiqué que cette responsabilité devrait commencer au sein des partis politiques. Ses propos ont été recueillis par Astrazibia Tayoro.
Distingués dirigeants des partis politiques, c'est vous, partis politiques, qui êtes le conquérant du pouvoir et le gestionnaire de la République à l'issue de l'histoire électorale. C'est vous, les leaders des partis et le mouvement politique, qui avez la décision de confier le poste des décisions à vos membres. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui vous demander de donner plus de chance à l'application de la loi dans notre pays concernant le genre. Nous venons vous demander de confier davantage de postes de responsabilité aux femmes à partir de la création de votre structure pour que les femmes ne restent pas seulement des applaudisseuses et des marginales, qu'elles puissent assumer le véritable leadership politique à côté de l'homme, bien sûr.
Jeanne Kadima, la ministre s'adresse aux partis politiques. Vous pensez que si la femme n'est pas suffisamment représentée dans les sphères politiques, la faute doit être incombée aux leaders des partis politiques?
Je dis non. Mais regardez, combien de femmes dans notre pays ont-elles déjà créé les partis politiques? Pourquoi préfèrent-elles seulement aller militer au sein des partis créés par les hommes?
Et donc la faute, moi, vous incombe à qui?
La faute incombe à la femme. Moi, je me dis, tout est fonction des compétences de chacun, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et mon point de vue sur cette question a toujours été que la femme doit se battre, c'est vrai. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans notre pays, mais ce sont les mêmes femmes qui sont toujours aux commandes de l'affaire de l'État. Ce sont toujours les mêmes. Ils font la rotation. Mais vous ne sentez pas que la femme paysanne, la femme maraîchère, tout ça, ces aspirations sont prises en compte. Moi, je dis, ça ne sert à rien, même d'aller jusqu'à... C'est vrai que, bon, au niveau des Nations Unies, il y a une résolution qui recommande la parité. entre hommes et femmes, hein, pour la direction des affaires publiques, mais on ne doit pas en faire ici, dans notre pays, comme ça, toute une campagne pour dire prenez les femmes, mais que les femmes elles-mêmes prouvent de quoi elles sont capables. Je pense que c'est ça, oui, mon point de vue.
Lui, comment, Jérémy Kadima, lui, incombe la faute aux femmes qui ne se battent pas suffisamment, alors que des notoriétés publiques, on sait que lorsque les partis politiques présentent des listes aux élections, eh bien, c'est les leaders des partis politiques qui constituent ces listes. Et donc, ces leaders s'arrangent pour qu'il n'y ait pas assez de femmes sur ces listes.
Effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon confrère Germain. En fait, il a raison en partie. Hein. Peut-être que le confrère semble oublier un peu l'histoire politique de notre pays. Est-ce que, Germain, à la table ronde de Bruxelles, il y avait combien de femmes ? Zéro. Dans le premier gouvernement de notre pays, il y avait combien de femmes ? En fait, ça, c'est la conséquence logique de ce qu'a été le début de la vie politique dans notre pays, juste avant et après l'indépendance. Mais je constate, Guy, que la ministre du Genre a une volonté inouïe de restaurer la place de la femme. Et quand elle s'adresse aux chefs des partis politiques, il est bien vrai que les femmes peuvent créer aussi leur parti, mais c'est pour que c'est à ce niveau-là que les femmes militent pour accéder à des postes de responsabilité. Qu'est-ce qu'on constate ? Il y a des statistiques ici, élaborées par CAFCO qui est un cadre de concertation permanent de la femme congolaise. Et CAFCO établit ceci comme observation. Aux élections il rentre même en 1996. La présidence de la République, effectif des femmes pour la présidence, zéro. Homme, un. Gouvernement, premier ministre, femme, zéro. Homme, un. Vice-premier ministre, femme, zéro. Homme, quatre. Ministre, deux femmes contre 22 hommes. Ministre, zéro femme contre 18. Vous voyez un peu tout ça. Et c'est pratiquement la même logique qui s'est poursuivie jusqu'à présent. Il est bien vrai que le président de la République
est le fait de l'homme.
En partie, oui. Et en partie, le fait de l'homme. Mais là où je suis plus ou moins d'accord avec mon confrère Germain, parce que, si vous ne le savez pas, lors des élections de 2006, il y a eu 64% de votants qui étaient des femmes. Donc, s'il y a eu un président de la République homme, ça veut dire que les femmes ont pris la décision de voter pour les hommes. Et là, elles doivent assumer. Voyez-vous ? Mais la démarche de la ministre, c'est quoi ? Par rapport au texte qui existe, qui recommande qu'il y ait parité. Mais aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint, depuis notre indépendance, une représentativité de 17% des femmes dans toutes les institutions, hein, depuis l'indépendance, je dis bien. Mais aujourd'hui, Marie-Ange Luciana interpelle les responsables des partis politiques, interpelle les femmes leaders, interpelle même ceux qui doivent faire exécuter la loi, parce que les articles 13, 14 et 15 de la Constitution reconnaissent la parité entre hommes et femmes. Donc, c'est un appel à l'éveil des consciences, c'est un appel aux femmes, si elles dorment, qu'elle se réveille. En fait, j'aime toujours rire, je dis l'attitude apathique des femmes, c'est peut-être ces récits du livre de Genèse qui dit que la femme a été créée alors que l'homme était plongé dans un profond sommeil, et ces effets soporifiques, me semble-t-il, poursuivent encore la femme. Je ne dis pas tout, pas toutes les femmes. Hein. Donc, oui. Par exemple, les Marie-Ange Luciana, il y a une constance, plus ou moins, dans l'exercice du pouvoir. Elle ne dort pas, me semble-t-il.
Oui, Katondi Mubengwa, pourquoi ne pas imposer carrément aux leaders des partis politiques l'application de l'article 14 de la Constitution, qui stipule que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Pourquoi ne pas leur imposer l'application de cet article-là de la Constitution?
Vous savez, mais c'est pas tellement se précipiter à imposer l'application du statique aux hommes politiques. Il faut, comme vous savez, nous l'avons dit au début, là, les hommes politiques au Congo continuent à violer la Constitution article par article. C'est là où on montre qu'il y a eu un manque de sérieux. Moi, je pense que quand on parle d'un politique, il y a un effet qui
vous sauve. Nous avons du mal à vous saisir. Hein? Essayez de vous déplacer.
Ah d'accord. Je disais que je sais pas si vous me captez là très bien.
Ça va, oui.
Je disais que Marie-Ange Louisiana n'a fait que jouer son rôle. Et parce que c'est dans son secteur, c'est dans son secteur, elle n'a fait que jouer son rôle. Et s'il faut dire qu'il faut imposer aux hommes politiques ou bien aux leaders de partis politiques la mise en application de cet article, moi je pense qu'il ne faut pas tellement se fier à ça. Nous l'avons dit au début, la Constitution est en train d'être violée article par article, et je ne pense pas que seulement il faut la faire passer à cet article. Mais je pense, comme l'ont dit les amis, c'est vrai que les femmes continuent à se battre pour arracher d'autres postes dans la gestion du pays. C'est une urgence importante, mais par rapport à l'histoire, moi je pense qu'il faut qu'on y aille graduellement. C'est vrai que la Constitution nous demande la parité, mais on va directement donner toutes les chances possibles aux femmes, parce que, comme vous savez, c'est vrai que le pays a beaucoup de problèmes. C'est vrai que nous irons aussi graduellement pour que les femmes occupent davantage, comme le souhaite Mme Angelicana. Mais comme le dit l'expert, les femmes ont environ 64% pour les hommes. Et donc, les grands temps, parce que les femmes aussi se réorganisent, elles comprennent qu'elles ont un grand rôle à jouer, et si elles ont été réorganisées, je me dis personnellement que l'année prochaine, disons, pour le mandat prochain, on pourra avoir une présidente femme, surtout qu'elle doit se battre pour arracher cette victoire-là. Je pense que Marie-Ange Lucama peut continuer sa lutte, je ne dis pas que c'est des candidats à la présidence, mais peut continuer avec sa lutte pour que les femmes s'y retrouvent davantage dans les institutions.
Oui, Jean-Marc Kadima, Lucky comment a évoqué tantôt qu'en 2006, 64% des électeurs étaient constitués des femmes. Or, nous savons que aux élections, après la présidentielle, aux élections législatives et provinciales, il y avait beaucoup de candidates de femmes, mais peu ont été élues. Et cela n'est pas la preuve selon laquelle les femmes entre elles ne se soutiennent pas.
C'est vrai que les femmes entre elles ne se soutiennent pas, et ça, c'est du vécu quotidien dans notre pays.
Ça peut se dire à quoi ?
Et je pense que, bon, vous savez, chacun a ses ambitions, mais je me dis, quelque part, le discours des femmes n'a pas pu séduire les électeurs, hommes ou femmes.
Vous le pensez ?
Oui, je pense. Je n'ai pas vu une seule femme qui a bâti campagne ici, hein, d'une manière consistante, pour, en fait, convaincre les électeurs à pouvoir voter pour elle. Mais s'agissant de Mme Lucana, j'apprécie bien son combat, mais je dis qu'elle ferait mieux d'aller au-delà de son activisme, au-delà de son plaidoyer, pour encourager aussi, parce que vous savez, son ministère s'appelle Genre, Femmes et Familles.
Femmes et enfants.
Mais je veux dire qu'elle aille au-delà en encourageant les ménages, en encourageant les parents à envoyer leurs filles à l'école. Parce que c'est un constat dans notre pays. Les filles préfèrent plutôt les mariages précoces et encourageant cela par leurs parents. Mais comment voulez-vous qu'une fille qui n'a pas étudié puisse prétendre demain ou après-demain à des charges publiques ?
Je crois qu'elle le fait déjà.
Hein, et comment ?
Je vous en prie, peut-être que Germain n'a pas très très bien suivi les activités que Mme Marie-Ange Lucana a menées. Donc, Mme Marie-Ange Lucana est en train de conscientiser la junte féminine à partir de la famille qui est cellule de base, en envoyant les filles à l'école, en allant construire des écoles pour que les filles y aillent. Mais les gens ne veulent pas seulement dire femme, ça veut dire aussi homme, hein, Germain.
Oui, bon, je prends acte.
Ok, merci, c'est avec vous que nous passons à notre troisième thème de ce soir. Province de l'Équateur, première plénière jeudi 17 septembre dernier à l'Assemblée provinciale après plusieurs mois de crise. Les députés provinciaux se sont enfin réunis en plénière hier jeudi, et cela après plusieurs rendez-vous manqués. 90 députés sur les 108 que compose cet organe délibérant ont assisté à cette plénière qui avait un seul point à l'ordre du jour, la présentation de la commission chargée de l'élaboration du budget de l'exécutif provincial pour 2010. Les points avec Béatrice Nabini.
Apparemment, les députés provinciaux ont compris l'exaspération de la population qui leur en voulait de passer leur temps à se quereller plutôt que de travailler. Après plusieurs reports successifs, l'Assemblée provinciale de l'Équateur a tenu ce jeudi sa première plénière depuis plus de deux semaines. Tout avait pourtant mal commencé à l'ouverture de la séance avec une nouvelle motion incidentielle de l'honorable Nolo. Ce dernier exigeait un pardon sincère du président de l'Assemblée provinciale au sujet des indemnités de sortie indûment touchées par le membre du bureau permanent. C'est accepté par Edmond Mondombo, le président de l'Assemblée, qui pouvait alors passer avec ses collègues à l'examen des derniers points à l'ordre du jour, la présentation de la commission chargée de préparation des budgets 2010 de l'Assemblée provinciale. Les 17 membres de la commission disposent des 72 heures pour présenter lundi 21 septembre un projet de budget pour 2010. Les deuxièmes rapporteurs ajoutent que les députés provinciaux ont accepté de se mettre désormais au travail dans l'intérêt citoyen de la province. Mbandaka, Béatrice Navindi, Radio Okapi.
Katongi Mubengwa, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise Goma, au Nord Kivu, et chef de l'antenne de l'Observatoire des médias congolais. Et une réaction par rapport à cette nouvelle donne à l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Moi, je pense que c'est une très bonne chose que les députés provinciaux se soient réveillés, c'est une très bonne chose. Et ce que nous avons déploré nous tous, c'est qu'à un certain moment, on sent que les députés, à un certain niveau, ils semblent mettre en première place, leurs propres intérêts, en une place des intérêts de la population. Et c'est ce qui a causé ces problèmes au sein même de l'Assemblée au niveau de l'Équateur. Moi, je pense que maintenant, il est grand temps à ce que les députés professionnels au niveau de l'Équateur prennent les choses en main pour ne pas continuer à distraire l'opinion. C'est une très bonne chose, il faut encourager ça.
Et Nkomo Kabonga, que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision et éditeur du journal Les Nouveaux Regards, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Peut-on espérer que cette fois-ci, la crise qui sévissait à l'Assemblée provinciale de l'Équateur est en train de se dissiper?
Je crois que si on ne tombe pas dans ce que les philosophes appellent la bêtise humaine, c'est-à-dire retomber dans l'état de division des intérêts égoïstes, comme le dit si bien mon confrère de Goma, si on ne retombe pas dans les erreurs du passé, si on en tire des leçons, l'avenir sera plutôt radieux pour l'Assemblée provinciale de l'Équateur, parce que les élus provinciaux doivent mettre d'abord en avant-plan les intérêts supérieurs de la province. Sinon, ils vont perdre tout leur temps dans des querelles intestines et ils n'auront été bons que pour rien. Et je pense que si ce temps déjà passé, hein, les anglo-saxons disent « time is money », donc ils évaluent ça en termes d'argent, ils ont perdu beaucoup de milliers qui aideraient la population de la province à décoller et aller vers le progrès provincial, hein, si vous voulez. Je crois que les députés qui suivent cette émission vont mettre un terme à cette bêtise qui a fait perdre beaucoup de temps. Et donc, je reviens une fois de plus dit dans ce déficit d'hygiène politique. Il faut qu'ils administrent à leur vie politique une gêne saine pour le bien-être de leur province.
Jean-Luc Kadima, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Phare, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Les notables de l'Équateur ont toujours affirmé que les nœuds du problème, c'est en fait la serre Makila. Mais à partir du moment où la Cour suprême de justice ne s'est pas encore prononcée de manière formelle sur cette affaire, est-ce qu'on peut espérer à la fin de cette crise à l'Assemblée provinciale de l'Équateur?
Vous savez, moi je me dis, avant que la paix revienne effectivement à l'Équateur, bien que l'Assemblée provinciale ait repris le travail, mais je me dis, tant que le gouverneur de province, M. Makila, ne sera pas réhabilité dans ses droits, je me dis qu'on parlera toujours de troubles, de désordres au niveau de l'Équateur. Et tout ça est à mettre, je crois, sur le compte de la fragilité de nos institutions qui sont encore jeunes. Nous sommes encore en plein apprentissage de la démocratie. Mais je pense qu'au lieu de donner l'impression de manipuler et la justice et les instances provinciales, l'exécutif, disons le gouvernement central au niveau de Kinshasa, ferait mieux d'encadrer ces jeunes institutions provinciales en leur prodiguant des conseils.
Oui, et comment vous êtes d'accord avec Germain Kadima qui pense que tout est fonction de la manière dont l'affaire José Makila est gérée par les pouvoirs centrales?
En fait, je suis tout à fait d'accord avec Germain qu'il faut que l'on rentre à la légitimité à l'Équateur. Mais plus le temps passe, je viens de dire ici qu'attention, il faut bien qu'on gère le temps, sinon on va perdre tout le temps. Et je ne crois même pas que le ministre Makila, lui-même, que je, pardon, le gouverneur, hein, le gouverneur Makila que je connais personnellement, serait content de voir sa province qu'il aime beaucoup sombrer, parce que lui, en tant que personne, est dans une situation, j'allais dire, difficile judiciairement. Je reconnais qu'il peut y avoir des problèmes, des interférences au niveau des institutions, je n'en sais rien, mais l'intérêt supérieur, je crois que le ministre José Makila, lui, voudrait que ceux qui sont là, qui soient encadrés en attendant la procédure judiciaire continue pour que sa province ne sombre pas. On risque de sacrifier la province, Germain, parce que une personne n'est pas là où elle serait. Je crois qu'il faut essayer un peu de dépasser les considérations individuelles pour voir tout d'abord l'intérêt supérieur, en l'occurrence, de la province.
Oui, Germain, vous allez réagir. Nous donnons d'abord la parole à Katondi Mubengwa. Katondi Mubengwa, quelle est votre réaction par rapport au point de vue exprimé par Germain Kadima et Luc Nikomo Kabongatwe?
Moi, je pense qu'à un certain niveau, tous ont raison, parce que le gouverneur Makila, la situation dans laquelle se trouve le gouverneur Makila, a un impact, c'est vrai, peu ou suffisant, considérable, mais la situation dans laquelle il se trouve actuellement a un impact, parce que c'est vrai qu'au niveau de Kinshasa, notre frère, c'est Kadima, il a dit que le gouvernement central doit commencer déjà à conseiller le jeune gouvernement pour les choses qui sont en train de, qui se sont déjà créées, qui ont déjà vu le jour, c'est une très bonne chose, parce que José Makila, ne vous en faites pas, il a été élu démocratiquement dans cette même assemblée, ne vous en faites pas, même si il peut être freiné, même si la justice peut traîner le pied à Kinshasa, ça fait traîner également José Makila, mais rassurez-vous, tout en étant Kinshasa, il garde contact avec les députés provinciaux qui l'ont élu, et moi je me dis, parce qu'il a été élu, il a également la majorité, même s'il y a licence, il a de l'impact dans la gestion de ce pays, de cette province. Et c'est pour cela que moi je souhaiterais, comme l'ont dit mon père, gouvernement au niveau national, prenne cette situation en main, parce que plus ça prend du temps, plus on va continuer à distraire la population, et on va terminer ce mandat sans que de cette province, on sente quelque chose de très concret. On va faire l'évaluation, on va faire le bilan des discussions qui se sont passées, des discussions qui m'ont qualifié de bilan qui se sont passées à l'Assemblée, au lieu de faire un travail de tout temps pour libérer la population.
Oui, Jean-Luc Kadima, votre réaction?
Vous savez, il y a un adage qui dit que la nature, comme le droit, a horreur du vide. Alors, vous vous imaginez un gouverneur comme Makila, élu démocratiquement, mon confrère de Goma l'a répété, élu démocratiquement, et comme ça, exclu de la gestion de la province pendant, je crois, maintenant 9 mois, et vous pensez que si à Kinshasa, la justice au niveau de la Cour suprême, si la justice n'est pas rendue en faveur de M. Makila, vous pensez que l'Assemblée provinciale qui a repris du travail hier va toujours continuer à travailler, alors qu'elle est majoritairement, je crois, MLC. C'est le parti de M. Makila. Donc je me dis, là, nous allons encore tout droit vers un mur.
Merci beaucoup, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Sylvain Matundu était à la technique et Alain Irung à la réalisation, assisté de Samuel Kachak et devant ce micro Guy Maté. Merci, je vous souhaite bon week-end sur Radio Okapi.